Chers camarades, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement d'être venus passer cette journée avec nous. Avant de parler de la situation du monde du travail, je voudrais d'abord vous dire quelques mots à propos d'un événement dont on parle beaucoup ces derniers jours, la guerre de 14-18. Car ce qui s'est passé, il y a un siècle, est toujours d'actualité. La Première Guerre mondiale vit s'affronter pendant 4 ans et demi les puissances européennes pour un repartage du monde. Plus de 10 millions de morts, des dizaines de millions de blessés, des vies brisées, des invalides affreusement mutilés. Voilà quel a été le bilan de cette boucherie où le monde capitaliste s'est révélé dans toute son horreur, en jetant le masque de la démocratie et de la justice. La dirigeante communiste Rosa Luxembourg avait trouvé les mots pour décrire cette barbarie en désignant les responsables. Je la cite. Souillés, déshonorés, pataugeant dans le sang, couverte de crasse, voilà comment se présente la société bourgeoise. Voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit. C'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité, qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment. Et au cœur de ce sabbat de sorcières, s'est produit une catastrophe de portée mondiale, la capitulation de la social-démocratie internationale. Oui, il faut se le rappeler, au début de cette guerre, il y eut un épisode tragique pour les militants ouvriers. Dès le jour de la déclaration de guerre, la plupart des dirigeants de la social-démocratie, c'était le Parti socialiste de l'époque, et des syndicats trahirent les travailleurs, lui fournissant même des ministres qui envoyèrent à la boucherie la classe ouvrière de chaque pays. Cette trahison marqua la fracture entre le courant socialiste qui venait d'abandonner son drapeau et son programme et le courant internationaliste marxiste révolutionnaire qui allait donner naissance au mouvement communiste dont nous nous réclamons. Depuis, le monde a connu de nombreuses autres guerres. Toutes, à un degré ou un autre, ont eu pour origine la course aux richesses et au profit des grands groupes capitalistes. Lorsque les puissances impérialistes telles la France, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres encore durent concéder quelques reculs politiques sous la pression des révoltes populaires en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, elles ont tout fait pour continuer à maintenir leur domination économique. Et cela, quitte à laisser derrière elles des bombes à retardement. Elles ont attisé les rivalités nationales, religieuses ou ethniques. Elles ont soutenu les uns contre les autres, en favorisant parfois les pires dictatures. Voilà pourquoi, s'il existe aujourd'hui des poudrières dans certaines régions du monde, c'est de la responsabilité des puissances impérialistes, que ce soit entre l'Inde et le Pakistan, que ce soit entre ceux qui restent de la Palestine et Israël, et que ce soit au Proche et Moyen-Orient ou dans d'autres pays ex-colonisés. Le voilà le monde capitaliste, un apartheid mondial qui condamne des millions d'êtres humains à la misère quand ce n'est pas à la famine, au désespoir, quand ce n'est pas à la mort. Et tout cela au nom de la propriété privée des moyens de production, au nom des lois du marché, de la concurrence et du profit. Si le monde capitaliste n'a pas fondamentalement changé depuis la première boucherie mondiale, il se trouve encore des bonnes âmes qui pensent qu'il peut être réformé, que le capitalisme peut avoir un visage humain, que l'on peut limer ses griffes. Eh bien non, ce monde dominé par les intérêts égoïstes d'une minorité de possédants génère la barbarie et celle-ci ne cessera que lorsqu'on aura jeté à bas ceux qui fondent son existence. La France, petit pays riche de cet Occident capitaliste, participe à cette exploitation du monde. Elle intervient régulièrement dans son ancienne chasse gardée africaine, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon, en Centrafrique jusqu'au Rwanda, que ce soit sous un gouvernement de gauche ou sous un gouvernement de droite, l'armée française a servi les intérêts économiques et politiques des grandes familles bourgeoises, celles des Bouygues, Bolloré et Dassault, des grands trusts comme Total ou encore des grands banquiers. Et récemment, après le Mali et la Centrafrique, Hollande a donc décidé d'intervenir en Irak. Face aux assassinats barbares perpétrés par la mouvance Daesh, le gouvernement instrumentalise l'émotion, expliquant que la sécurité nationale est en danger, voulant ainsi créer un consensus, une union sacrée autour de sa politique. Eh bien, il ne faut pas s'y laisser prendre. Si la France intervient dans cette région du monde, c'est pour être à la table du partage des richesses au cas où la situation se stabilise, rien d'autre. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'en Irak, ce soit un gouvernement socialiste qui se charge de cette besogne. Cela fait un siècle, justement, depuis 1914, que les dirigeants socialistes se considèrent comme de loyaux serviteurs de la bourgeoisie. Qu'on en juge plutôt par la politique que le gouvernement socialiste mène ici. Arrivé au pouvoir, Hollande a pris toutes les mesures qu'il fallait en faveur du patronat. Des dizaines de milliards ont été débloqués, des exonérations ont été accordées, des lois ont été changées, à chaque fois pour aider les banques et le patronat au détriment des travailleurs. Dans le bras de fer qui opposait les sidérurgistes de Florange au milliardaire Mittal, dans la grève des ouvriers de Peugeot Aulnay-sous-Bois contre la fermeture de leur usine, lorsque les cheminots se sont battus pour préserver leurs conditions de travail, dans toutes ces occasions et dans d'autres, Hollande a fait la preuve qu'il était bien le serviteur de la cause patronale. Et c'est toujours la même politique quand Hollande a prolongé la durée de cotisation pour une retraite pleine, quand avec l'ANI, l'accord national interprofessionnel, il a offert au patronat une autorisation permanente pour licencier, pour aggraver la flexibilité et pour bloquer les salaires. Et Hollande maintiendra cette politique, quitte à en payer le prix, c'est-à-dire à perdre élection après élection. Et ce qui est grave, c'est qu'avec cette politique, Hollande a démoralisé une fraction importante des travailleurs qui se sont sentis trahis. Si le dégoût de la politique, le sentiment de trahison et la démoralisation ont pris le dessus, il en va de la responsabilité de la gauche, du Parti socialiste avant tout, mais aussi de la direction du Parti communiste, qui avait et qui a toujours de l'influence sur de nombreux militants ouvriers. Au lieu de mettre en garde les travailleurs, au lieu de leur dire que Hollande allait mener une politique semblable à celle de Sarkozy, car c'est cette politique qu'impose la bourgeoisie, au lieu de dire par avance que seule l'organisation et la lutte des travailleurs sur leur propre terrain pouvaient changer les rapports de force, la direction du Parti communiste a expliqué qu'il était possible d'infléchir la politique du gouvernement de façon passive, uniquement en votant bien. Il y a dans cette salle des camarades du PC, des camarades avec qui nous pouvons discuter sans problème, de manière fraternelle. Alors, je leur dis tout aussi fraternellement que les illusions électoralistes semées par les dirigeants de leur parti ont été une catastrophe pour le Parti communiste lui-même, mais aussi, plus généralement, pour la classe ouvrière. Défendre l'idée que le changement, l'amélioration de notre sort, dépendrait du bulletin de vote est la pire politique pour la classe ouvrière. Aujourd'hui, ces illusions électoralistes tournent au profit du Front National, le seul parti qui se présente en sauveur, jouant sur le fait qu'il n'a jamais été au pouvoir. Mais Marine Le Pen a beau se présenter comme étant hors du système, on voit bien qu'elle trépigne d'impatience d'y accéder. Elle envisage même, en cas de dissolution de l'Assemblée, de devenir Premier ministre de Hollande. c'est dire que, comme les autres, elle ne pense qu'à aller à la mangeoire. Le développement des idées du Front National inquiète à juste titre les militants ouvriers. Mais cette progression n'est pas inéluctable. Pour l'empêcher, il est illusoire de compter sur les dirigeants de cette gauche qui, par leur politique, a fait le lit du Front National. Non, pour s'opposer au développement des idées réactionnaires, il faudra que la classe ouvrière ne compte que sur elle-même, il faudra qu'elle retrouve le chemin des luttes, qu'elle défende ses intérêts de classe. Ce ne sont ni les immigrés, ni les chômeurs qui sont les responsables de la situation dégradée, mais bien la crise du capitalisme. Les responsables de la crise sont ceux qui en profitent, les grandes familles bourgeoises et milliardaires du pays, celles dont la fortune augmente alors même que la population laborieuse s'appauvrit. Ce n'est ni l'euro, ni la Chine, ni Merkel, comme dirait Mélenchon, ni la droite allemande, comme l'a déclaré Montebourg, qui sont responsables des licenciements et de la baisse du niveau de vie. C'est le système capitaliste. La politique patronale a toujours consisté à diviser les travailleurs. Les CDI contre les CDD, les intérimaires contre les embauchés, les ouvriers contre les employés, les ouvriers d'origine française contre les immigrés. C'est ce que fait le MEDEF en essayant d'opposer les travailleurs aux chômeurs. Car comme nous l'explique Gattaz, son président, c'est à cause des salariés qui s'accrochent aux 35 heures, aux jours fériés et à tous les droits sociaux que les patrons ne pourraient pas embaucher. À l'entendre, ce sont ceux qui travaillent qui seraient responsables du chômage des autres. Quel mensonge, quelle absurdité. Cette stratégie de division a pour but de masquer la seule véritable opposition qui existe dans cette société. Celle entre exploités et exploiteurs, celle entre bourgeoisie et travailleurs. Il n'y a pas de miracle. Les 15% d'augmentation des grandes fortunes et la hausse des dividendes ont été pris dans la poche des salariés. Ils résultent de la baisse de leurs droits et du recul de leurs conditions de travail qu'on leur impose. Pour faire en sorte que la conscience de classe ne recule pas parmi les travailleurs, il faut parler un langage de classe, défendre une politique de classe, et pour cela, il faut un parti de classe, un parti qui ne dise pas aux travailleurs « votez et nous ferons le reste », un parti qui milite pour que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même malgré toutes les trahisons subies. Je sais, et nous savons tous à quel point le courant ouvrier communiste est minoritaire aujourd'hui, et à quel point les travailleurs ont perdu confiance dans leurs forces. Mais il faut être optimiste et savoir que cela reviendra. Bien d'autres que nous ne supportent pas l'arrogance d'un Gattaz ou les provocations patronales. C'est dans l'action collective que la conscience des travailleurs et la confiance dans leurs capacités reviendront. Mais pour que cela soit, il faut que dès aujourd'hui, des militants affirment des objectifs, un programme de lutte qui change la vie. Et je tiens à dire aux jeunes, si prompts à s'élever contre l'injustice, comme on le voit avec les manifestations contre les violences policières responsables de la mort de Rémi Fraisse, aux jeunes préoccupés par les violences policières, mais aussi contre les violences sociales, aux jeunes préoccupés par le tour de plus en plus réactionnaire que prend la société, de prendre part à notre combat, qui n'est pas seulement un combat pour l'émancipation de la classe ouvrière, mais un combat pour libérer la société de l'arriération dans laquelle elle s'enfonce. Les préjugés nationalistes, racistes, comme les idées rétrogrades, par exemple sur la place des femmes dans la société ou sur le sens de la vie, ne disparaîtront que si la société se transforme en profondeur, que si la société prend un cours humain. Alors, n'acceptez pas tous ceux qui veulent nous ramener en arrière. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire et pas empêcher, Mais il y en a au moins une qui dépend de nous, c'est de dire ce que nous pensons. C'est d'affirmer notre politique, c'est faire vivre nos idées parmi les travailleurs. Les grands et les petits combats se font d'abord dans les têtes et dans la conscience que les travailleurs ont de leur capacité, du rôle qui doit être le leur dans la société. Sur ce terrain-là, nous pouvons être utiles et préparer l'avenir. Alors, camarades, je vous souhaite une bonne fête et surtout, bon courage pour le combat que nous avons à mener.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim.
Passé, faisons table rase.